Le duel, Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Et bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver tous les deux et on va démarrer avec une étude dont les résultats sont sidérants. Étude sur la tentation radicale chez les jeunes. Les sociologues Anne Muxel et Olivier Galland ont étudié 7000 lycéens de seconde âgés de 14 à 16 ans. Dans le groupe d'élèves interrogés, un quart se déclare musulman et 39% sont scolarisés dans des lycées populaires ou très populaires. Voilà pour le cadre de l'enquête. Et ce qui est incroyable, c'est qu'un quart des lycéens interrogés ne condamnent pas totalement les attentats contre Charlie Hebdo et le Bataclan. 80% d'entre eux considèrent qu'on ne peut pas se moquer des religions. 68% d'entre eux pensent que les médias n'ont pas dit toute la vérité sur les attentats de 2015. On va continuer à aborder dans le détail cette enquête, mais ça vous inquiète, Natacha Polony ?
De toute façon, nul ne peut dire aujourd'hui qu'il n'est pas inquiet et nous n'avons pas besoin d'une étude pour savoir qu'il y a un réel problème. Enfin, depuis 2015, nous avons vu, et on pourrait même remonter à 2012 et à Mohamed Merah, nous voyons des jeunes gens qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ont passé 12 ou 13 ans sur les bancs de l'école républicaine et qui sont capables de prendre les armes pour massacrer des enfants parce qu'ils sont juifs.
Un tiers d'entre eux pense qu'il est, je cite, « acceptable dans certains cas de participer à une action violente pour défendre ses idées ».
Alors, simplement, on va y
venir. Ça reste des gamins entre 14 et 16 ans.
Mais bien sûr, et on va y venir. Il y a une question de méthodologie dans cette enquête et de formulation des questions, en particulier celle-ci, puisque la question est de savoir dans quel cas, justement, il leur semble acceptable. C'est-à-dire qu'on reste sur sa fin.
Problème de méthodologie, juste pour que nos auditeurs le sachent, l'échantillon n'est pas représentatif, les chercheurs l'assument, les jeunes musulmans sont surreprésentés, ils ne seraient pas apparus dans un échantillon traditionnel, Raphaël.
Et les jeunes musulmans, en particulier, des quartiers les plus sensible.
Oui,
c'est-à-dire qu'il y a aussi
important.
L'émergence d'une petite bourgeoisie musulmane qui est sous-représentée dans l'enquête. Mais ils assument, et de toute façon, par-delà les questions de méthodologie, c'est évident qu'il y a un problème ultra inquiétant aujourd'hui en France. Et le nier serait complètement fou. Mais la grande question qui se pose à nous tous, c'est comment on répond à ça.
Oui, que peut-on faire ?
Et pour savoir comment on répond à cela, il faut déjà essayer de poser des mots et un diagnostic sur ce qui se passe. Or, je pense que les facteurs sont multiples. Par exemple, le débat qui a surgi immédiatement à la lecture de cette enquête, c'est de la part de certains le fait de dire que on ne tenait pas compte des discriminations que vivent ces jeunes et qui seraient un des facteurs de radicalisation. Alors, il y a dans l'enquête une dimension qui relève de cela, puisqu'il y a une question sur le sentiment d'être discriminé chez ces jeunes. Et simplement, les sociologues ont l'air de dire que finalement, ça n'est pas un facteur qui change beaucoup de choses. Le fait de se sentir discriminé, ceux qui se sentent discriminés vont plus facilement avoir une vision radicale de leur religion, mais c'est pas forcément non plus flagrant.
Mais que peut-on faire ? Question que posait Raphaël. Est-ce que c'est le rôle de l'école ? Est-ce que c'est le rôle des journalistes, des médias de casser ces idées ?
Il y a une chose qui s'appelle la République, qui est la chose publique, la chose commune, et c'est le rôle de la République. Ça veut dire la République, ça implique l'école, ça implique d'autres institutions que l'école.
Mais ils vont à l'école, ces gamins.
Ils vont à l'école, mais ils vont à l'école, ils regardent les médias, ils ont accès aux réseaux sociaux et ils vivent une condition sociale. Alors, peut-être que pendant trop longtemps, il y a eu une forme de déni face à l'idéologie islamiste radicale, mais pour qu'une idéologie soit dangereuse et rencontre une audience, il faut aussi un terreau social, un terreau culturel, un terreau politique dans une société. Et donc, pour répondre à cela, il y a deux solutions. Il y a soit la solution où on décide qu'on n'est plus une démocratie et on va donc expulser des populations sur la base de leur foi. Alors ça peut être défendu par l'extrême droite. Mais si on n'est pas dans cette solution-là, on doit absolument prendre en compte les phrases que nos propres dirigeants ont prononcées. Manuel Valls, par exemple, quand il était Premier ministre, a dit « il y a des ghettos ». Sur le sol de France, il a même utilisé le mot de politique
d'apartheid. Mais est-ce que vous pensez que
le problème, c'est que
14 ans, ont écouté Manuel Valls.
Mais simplement, le constat, ça fait quelque temps déjà qu'on le fait. Et donc maintenant, ce qui serait bon, c'est face à ce constat, qui est un constat grave, c'est d'avoir une politique qui abatte les murs de ces ghettos.
Natacha. Mais je pense qu'il y a cette dimension, évidemment, des ghettos. Et je ne vois pas très bien comment on peut demander à des jeunes gens issus de l'immigration...
D'où viennent ces lycéens ne sont pas dans des ghettos.
Bien entendu. Mais là, nous sommes obligés de faire des généralités. Nous savons tous qu'il faut rentrer finement dans les choses, que tout... D'ailleurs il y a une part de convertis dans ceux qui se radicalisent, etc.
Mais très étonné par... C'est comme si on méconnaissait cette jeunesse française avec des gamins qui sont plutôt tolérants, par exemple, devant le fait de tricher à un examen ou de tricher en classe, plutôt tolérants vis-à-vis de quelqu'un qui va dealer du shit, et de l'autre côté qui considère qu'on ne peut pas se moquer des religions.
Il faut tout de même remarquer que ça fait quand même des années qu'on a des professeurs qui observent cela. Ils ont été les premiers à analyser ces choses-là et on leur a expliqué que ce qu'ils racontaient n'était pas représentatif parce que ça concernait certains endroits, etc. On n'a pas écouté ce qu'ils étaient en train de dire et qui justement croisaient de multiples facteurs, c'est-à-dire la question de la religion et le rôle de l'interprétation actuelle de l'islam telle qu'elle se fait par un discours salafiste qui est en train de gagner du terrain, la dimension de discrimination et de constitution de ghetto, la question de ce qu'on peut appeler le multiculturalisme ou en tout cas de l'effondrement de la fabrication d'une nation et d'un commun, d'un discours commun qui fait que petit à petit, les individus ne se sentent plus appartenir à une société. Ce sont tous ces facteurs-là qui se cumulent.
Raphaël.
Bien sûr, et il y a un autre facteur qui se cumule et qui explique le paradoxe que vous trouvez. Alors d'un côté, on peut être tolérant vis-à-vis des tricheries du business personnel de vendeurs de shit, et de l'autre, on doit absolument respecter la sacralité des religions. Mais, excusez-moi, ça c'est une définition d'une société libérale absolue, c'est-à-dire que c'est l'individualisme total d'un côté.
Donc même ces lycéens de seconde seraient des libéraux.
Ils évoluent dans une société où effectivement les références communes sont de moins en moins fortes et où l'individualisme est hyper prégnant. Alors ce qui est paradoxal, et c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un côté ils ont un comportement extrêmement individualiste et de l'autre ils ont une adhésion apparemment forte à une forme de communauté, qu'elle soit religieuse ou autre. Et l'enjeu c'est là-dedans de réintroduire la République.
Mais il n'y a pas que la question religieuse dans cette approche de la radicalité. Il y a le manque de confiance dans les médias, l'adhésion aux théories du complot. Bien sûr. Ça, pour le coup, ça traverse tous ces lycéens des différentes académies.
Il y a une étude aux États-Unis extrêmement intéressante sur le vote. Dans les mêmes conditions socio-culturelles, des mêmes régions, le comté qui avait gardé un média local, ne votait pas pour Donald Trump quand le comté qui n'avait plus de média local votait pour Donald Trump. Ce qui veut dire que la décrédibilisation des médias et le fait qu'on ne s'informe plus que sur Facebook et sur Twitter,
c'est pas le cas des gamins de 14 ans,
ils sont sur les réseaux sociaux.
Oui. Et les réseaux sociaux impliquent un biais, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance, puisque c'est le mécanisme même des algorithmes, de n'obtenir que les informations qui vont dans le sens de ce qu'on croyait déjà. Mais la méfiance envers les médias, c'est une des dimensions bien sûr très importantes, qui frappe l'ensemble de la société et qui doit, pour le coup, nous obliger, nous journalistes, à nous poser quelques questions, c'est-à-dire que c'est un public qu'il faut aller récupérer. Dans le sens où il y a eu pendant des années cette impression de la part de différentes franges de la population que les médias en général ne parlaient pas d'eux et ne leur parlaient pas. Et c'est vrai aussi bien pour des complotistes qui vont avoir une tendance d'extrême droite que pour des jeunes gens qui ne se sentent pas appartenir à la société commune, à la communauté politique et qui ont l'impression que les médias incarnent tout simplement ces institutions de cette communauté politique dans laquelle ils ne se sentent pas inclus et qu'ils ne reconnaissent pas.
Est-ce que vous êtes malgré tout optimiste en vous disant par exemple que ce sont des lycéens de seconde, ils ont entre 14 et 16 ans, ils n'ont pas encore achevé la construction de leur esprit citoyen et qu'après tout ça leur passera avec l'âge? Ou est-ce que c'est de la naïveté, Natacha, à l'air de trouver ça?
Il y a deux choses. La première chose, c'est évident que par exemple si dans les années 70 on pose la question de la violence politique à des enfants de 16 ans, ils n'ont pas de problème avec la violence politique d'extrême gauche ou des révolutions sanglantes. Donc on pourrait être très inquiet comme ça. Maintenant, il y a un phénomène naturel dans nos sociétés qui est l'adhésion d'une partie de la jeunesse à des formes de violence politique, puisque c'est aussi une violence politique là. Par contre, il ne faut pas mettre la tête dans le sable. Il y a un vrai problème de délitement du lien républicain et il y a à mon avis... Le constat, ça y est fait, tout le monde en parle, mais les moyens à la fois conceptuels et des moyens réels pour abattre les murs qu'on constate eh bien, ne sont pas du tout à la hauteur. Donc, il n'y a pas une réponse politique encore à ce problème-là.
D'autant que là, nous avons la rencontre entre toutes ces problématiques qui sont des problématiques que peut rencontrer la société française et une idéologie qui est une idéologie qui se répand à l'échelle mondiale, qui est une certaine lecture de l'islam, qui est une lecture totalement littéraliste et en contradiction totale avec toute l'histoire du monde musulman. Or, cette question-là aussi se pose et amplifie le phénomène. C'est pour ça que la question qui est posée par tous les sociologues, à savoir est-ce que c'est, on va dire, une déviance structurelle de l'islam ou est-ce que c'est conjoncturel ? C'est une question qui est intéressante. Elle ne suffit
l'enquête
pas.
L'enquête n'y répond pas.
Non, l'enquête n'y répond pas.
C'est et en un l'occurrence, débat ce qui est intéressant, c'est années. Qu'elle montre que ces lycéens, ce sont des individus qui ne sont pas forcément violents et que les jeunes violents ne sont pas tous croyants.
Mais bien entendu, c'est ensuite à certains moments de l'existence d'un individu que peuvent se rencontrer tout cela. C'est-à-dire que toutes les enquêtes sur les jeunes gens radicalisés montrent que même s'il y a une diversité très grande, il y a à un moment donné souvent le passage par la délinquance et par ce seuil de violence qui augmente, et puis ensuite le besoin de se racheter. C'est une forme de salut.
Mais encore une fois, moi je pense qu'il est extrêmement important que maintenant on passe au débat sur les réponses.
Mais
parce que
sûr.
Ce constat, à mon avis, tout le monde aujourd'hui sait qu'il y a un problème.
Voilà.
Et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, mais on aura évidemment l'occasion de reprendre le sujet dans l'émission. La tentation radicale s'est publiée aux presses universitaires de France pour ceux qui veulent aller plus loin. L'émission continue maintenant avec le débat.